Donc moi j'ai intitulé mon intervention Morceau en forme de poire. Premier point, chorale inappétissant. Éric Satie est mort le 1er juillet 1925, et peu de temps après sa mort, ses amis Darius Milhaud et Henri Sauguet ont découvert avec stupeur sa petite chambre à Arcueil, dans laquelle, semble-t-il, personne n'avait jamais pénétré de son vivant. Donc il s'agissait d'un misérable taudis en grand désordre, dont il avait obturé une des fenêtres et dans lequel il y avait entre autres deux pianos ficelés l'un à l'autre, des partitions inédites qu'il pensait avoir perdues comme Jack in the Box ou Geneviève de Brabant, des centaines de lettres, des douzaines de costumes de velours tous pareils, des dizaines de cannes, de parapluies, de paires de mouchoirs. Et puis surtout, une vieille boîte à cigares avec plus de 4000 petits bouts de papier, carton à peine plus grand qu'un timbre-poste, sur lesquels Satie avait fait des dessins à la plume et où il avait calligraphié des textes énigmatiques, en particulier des fausses petites annonces qui décrivaient des lieux, topographiquement, hein. Des lieux, des maisons fantastiques, des objets bizarres et aussi des sombres complots. Quelques exemples de ce qu'il y avait écrit sur ces petits cartons. Étrange et grandiose château féodal du XIIe, abandonné, construit en 1113 en une nuit par le fils du diable pour sa jolie maîtresse. Ou bien une autre annonce. Gros château gothique en fonte avec parc lourd et disgracieux. Parmi les objets qu'il décrivait, il y avait par exemple couvercles absorbeurs consumants, ou bien transformateurs absorbeurs invisibles, ou bien racleurs frappeurs enfonceurs, engins de guerre du docteur Lapin. Planeur en acier le coursier. Dirigeable en cuivre, le Brutus, et une notation, ingénieur faussaire en tout genre, mieux que le réel, ou aussi sorcier brocanteur, despote invisible et trompeur, ou encore beaucoup plus inquiétant, marche sourde dehors de coupe-jarrets, d'écorcheurs, de fanatiques, d'incendiaires, d'éventreurs, de vagabonds et de pillards. D'après le témoignage de la femme de Darius Milhaud, on avait trouvé en face, sur le mur d'en face de sa maison, quelqu'un avait écrit « Le diable habite ici ». Et donc, pour elle, ça ne faisait pas le moindre doute que c'était Satie qui l'avait écrit. Donc, ingénieur, faussaire en tout genre, sorcier, brocanteur, ça pourrait bien être des noms de Satie. Je rapprocherai d'autres noms qu'on peut trouver dans sa correspondance quand il dit ceci, le monstre présomptif, héritier de vomissements, le vautour herpétique, amalgame graisseux que je suis. Et il ajoutait que il parlait du fait qu'il était dans les bras rabougris du diable et qu'il faudrait qu'il aille sous les jupons magnifiques du Seigneur. On trouve ça dans une lettre du 12 janvier 1997 à Madame Fernand Le Monnier, à qui il demandait de l'argent, en quelque sorte. Donc, le monstre présomptif, héritier de vomissements, indique combien pour Satie la chaîne des générations lui assigne la place rejetée du monstre et comment l'appel au nom du père n'est que vomissement. Quant au vautour herpétique, il résonne avec une certaine forme de mendicité exercée par Satie, qui vécut dans la misère, bien souvent aidée par son entourage. Notons aussi l'importance du dédoublement et du double qui est vraiment un leitmotiv dans la vie et dans l'écriture de Satie, et peut-être une réponse à ce qu'il nomme l'amalgame graisseux. En tout cas, le réel qui habitait Satie ne pourrait pas être dénoué de la façon dont il a essayé de le traiter, par l'écriture, ironique, musicalement. Nous savons par les témoignages de Blaise Cendrars et d'André Breton que Satie avait un rapport singulier à l'énonciation. Il parlait comme un perroquet, en proverbe, la main devant la bouche et en tirant sur son nez avec son pince-nez. C'était un personnage, une sorte de ready-made qui témoigne d'un usage ironique de l'imaginaire et du symbolique. Cet usage ironique lui a permis de se rebrancher sur l'autre chaque fois que s'est ouvert un gouffre structural dans son existence. Deuxième paragraphe, comme un rossignol qui aurait mal aux dents. Je cite Satie, après une courte adolescence, je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C'est à ce moment de ma vie que je commençais à penser et à écrire musicalement. Fâcheuse idée, très fâcheuse idée, en effet, car je ne tardais pas à faire usage d'une originalité, entre parenthèses, originale, déplaisante, hors de propos, anti-française, contre nature, etc. On trouve ça dans les mémoires d'un amnésique. La façon de penser et d'écrire musicalement d'Eric Satie nous enseigne sur ce que je nommerais son invention de lui-même. Comme le note Ornella Volta, dans le cas de Satie, c'est bien l'œuvre qui explique la vie et non pas le contraire. L'œuvre musicale de Satie est la même chose que son mode d'être au monde. Cette originalité déplaisante et hors de propos fera de lui un marginal de l'establishment musical de son époque, en France. Autre tradition. Et voilà, mais il sera cependant reconnu par les avant-gardes et en particulier dadaïstes et surréalistes. On pourrait dire que cette originalité est une esthétique de l'ironie, une éthique de la pauvreté au service tout deux d'une mission prophétique. On retrouve le prophète. Il s'agissait pour lui de changer notre rapport à la musique, à l'écoute et au son, et nous faire retrouver une musique originelle et perdue, mais qui n'a jamais existé autrement que réinventée par lui. Et finalement, nous poser la question, qu'est-ce que la musique? Les mots, les sons, la trace écrite calligraphiée se nouent autour d'un objet musical original qui loge en lui-même cette question, qu'est-ce que la musique? Comme l'a montré de façon convaincante Jean-Pierre Armengaud, l'écriture musicale de Satie relève de l'ironie socratique. Satie voulait faire descendre la musique de son piédestal wagnérien, secouer nos habitudes d'écoute. Pour cela, je cite Jean-Pierre Armengaud, il pousse l'écriture académique ou à la mode jusqu'à l'absurde. Il raccourcit, il juxtapose, il imite, il plagie, il détourne, il falsifie les mots comme les notes, son personnage comme sa musique. Par exemple, il va insérer une vraie fausse marche funèbre de Chopin dans Embryon desséché, ou une fausse vraie sonate de Clementi dans Sonatine bureaucratique. Ou encore, on retrouve des allusions déformées à des airs d'opérette, des airs populaires comme Au clair de la lune, Malbrou s'en va en guerre, etc. Ou on trouve aussi des chansons de café. Autre exemple de la façon dont il s'y prend, il juxtapose de façon cubiste le ragtime, le tango, la valse, la suavité debussyste et la morale du contrepoint. Satie disait de lui qu'il était un phonométrographe et non un musicien. Il s'est moqué de toutes les règles du jeu de la musique, refusant en particulier le développement d'un discours, pour préférer ce que Jean-Pierre Armengaud appelle le corps du son, les successions verticales des accords qui sont en boucle fermée. En faisant ça, finalement, il introduit une distance critique dans la conduite du discours musical qui se moque de lui-même et casse le système. Donc on pourrait dire que son écriture musicale vise plutôt le 1 du son, pas sans mots, puisqu'il écrivait beaucoup sur ses partitions, Mais ces mots apparaissent sur ces partitions déconnectées du signifié, comme le note Serge Cottet dans l'article dont Philippe parlait tout à l'heure. Troisième paragraphe, en habit de cheval. Tout au long de sa vie, Satie a fait un usage singulier de l'imaginaire et du symbolique marqué par l'ironie et le dédoublement. Chaque fois qu'il a été confronté à un trou structural, il a trouvé les ressources pour se tenir au bord par le mouvement de son écriture musicalement. Après son échec au conservatoire puis à l'armée, il détruit tous ses vêtements et endosse le costume de l'intellectuel anard, barbe et binocle, vivant dans la bohème à Montmartre, pianiste au fameux cabaret Le Chat Noir, donc qui était un endroit important à cette époque, à la fin du 19e, un cabaret artistique de type nouveau qui associe des spectacles, des chansons, des expositions, un théâtre d'ombre, des discussions, des rencontres, un journal et bien sûr des consommations. Et au Chat Noir, il va côtoyer le milieu artistique branché, comme par exemple le cercle des hydropathes, mais aussi le mouvement des incohérents avec Alphonse Allais, qui a été très important pour Satie. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, au Chat Noir, il y avait aussi toutes sortes de mouvements ésotériques qui pullulaient à la fin du 19e siècle. Et donc, on a la vie de bohème, le Chat Noir, les cafés, bien évidemment l'alcool, l'amitié de Debussy d'un côté, et puis de l'autre, il y a la rencontre avec le poète symboliste Contamine de la Tour, qui sera un petit peu son double pendant un certain temps. Et voilà, et le sulfureux Sart Peladan, un wagnérien fanatique, fondateur de la secte Rose plus Croix, qui est donc une dissidence
Des vrais roses, des vrais
vrais
rosicrucistes. Ils sont des descendants de francs-maçons.
Voilà, donc et donc Satie pendant un petit temps va devenir le maître de chapelle de la secte Rose plus Croix, jusqu'à ce que Péladan le déclare publiquement son disciple musicalement, alors que il semble que ses compositions étaient plutôt des critiques ironiques du sublime wagnérien, mais auxquelles Péladan n'avait pas saisi la critique. Alors évidemment, le fait que Péladan le déclare son disciple a été absolument insupportable pour Satie, et donc il va rompre avec lui. Mais c'est aussi un temps très délicat et très compliqué pour Satie, puisque c'est aussi le temps où il va rompre une rupture catastrophique avec la peintre Suzanne Valadon, qui est la seule relation amoureuse qu'on lui ait connue. Et d'ailleurs, il donnera deux versions différentes de cette rupture, l'une où il la jette par la fenêtre, et une autre où il va voir la police pour que la police lui interdise l'accès chez lui. Et c'est aussi pendant ce temps de relations extrêmement passionnelles et qu'il écrira Vexation, un motif de 13 accords neutres dans une harmonie de triton, à répéter 840 fois pendant 24 heures. Donc je crois que John Cage
Absolument.
l'a enregistré.
Il
Voilà.
a enregistré, il a dit que ça avait été lui pour lui une expérience absolument essentielle d'entendre cette musique répétée vraiment pendant des heures et des heures.
Et Satie lui accorde une vertu thérapeutique.
Oui.
C'est pour ça que ça s'appelle Vexation.
Voilà. Alors donc, à ce moment-là, dans ce moment de rupture, eh bien, Satie va endosser un nouveau costume, mais au sens propre du terme, puisqu'il va s'habiller différemment, en gros velours côtelé gris, toujours le même, avec un chapeau plat et une barbe en pointe, et il devient le Velvet Gentleman. Et donc, tout en continuant d'être pianiste au Chat Noir pendant un petit temps et de fréquenter assidûment le monde des cafés dans ce Paris, on est aux alentours de 1895, entre 93, 95, 80 jusqu'à 97, il va fonder son église métropolitaine de l'art de Jésus conducteur, dont il devient le parcier. Parcier, c'est un mot médiéval qui veut dire celui qui a part à quelque chose.
C'est l'économe.
Donc il devient à la fois le parcier et l'unique membre de cette église. Et c'est donc à partir de cette place de parcier qu'il va envoyer aux membres du Gotha musical parisien, qui rejette ses œuvres, des bulles d'excommunication calligraphiées sur des papiers précieux, écrites en français médiéval. Et les plus célèbres de ces bulles visent Henri Gauthier-Villars, dit Willy, le mari de Colette, qui était un redouté critique musical qui écrivait sous le nom de Louvreuse. Et donc, ces échanges de bulles et de courriers dureront pendant des années et finiront par un duel à coup de canne. Satie avait retiré le chapeau de Willy et donc ils sont battus à coup de canne et il s'est retrouvé, c'est Satie qui s'est fait embarquer. Donc on pourrait dire qu'il y a chez Satie un véritable savoir-faire avec son vécu persécutif et aussi un appui imaginaire ou symbolique qui lui permettait finalement d'inventer un personnage et une place singulière d'où il pouvait se maintenir, d'où il a pu se maintenir dans l'autre.
Pas très longtemps, mais
à chaque fois il trouvait, voilà, pendant un certain temps on va dire, avec des moments de retrait, voilà. On peut rapprocher de ces bulles les lettres de candidature qu'il a envoyées à trois reprises à l'Académie des Beaux-Arts et qui sont en quelque sorte une image inversée de ces bulles. Dès qu'il y en avait un qui mourait, il envoyait une lettre de candidature. Donc lorsqu'il doit faire face à la mort de son père en 1903, et aussi à l'événement musical qu'a constitué Péléas et Mélisandre de son ami Debussy, qui a été, je crois, un grand choc pour lui, puisqu'il a à ce moment-là, il a dit « Plus rien à faire de ce côté-là, il faut chercher autre chose où je suis perdu. » Et donc, il va répondre finalement à Péléas et Mélisandre avec des compositions comme trois morceaux en forme de poire ou bien les nouvelles pièces froides et puis ensuite toute la série de ces pièces humoristiques. Et donc pour faire face à ces deux événements considérables pour lui, il va changer à nouveau de style et trouver de nouvelles ressources en retournant à l'école. C'est-à-dire qu'après de 40 ans, il revient élève à la Schola Cantorum, l'élève de Vincent d'Indy et d'Albert Roussel. Et il obtiendra une licence de contrapuntiste. Donc c'est un point d'appui ironiquement symbolique, cette Schola Cantorum, et qui s'accompagne d'un nouveau costume le plus célèbre, qui est son faux costume d'académicien Troisième République, avec son chapeau melon, son binocle et son parapluie digne de Charlot. Donc Satie, reconnu désormais par l'avant-garde, s'appuiera sur Ravel, sur le groupe des Six, Henri Sauguet, mais aussi des peintres Picasso, Picabia, les dadaïstes et surréalistes, tout en récusant toute filiation ou école. Toujours dans la grande pauvreté, il fréquentera les salons parisiens avec ce costume de faux académicien mendiant, en quelque sorte, puisque ses amis lui mettaient à son insu une petite enveloppe avec de l'argent
dans sa poche,
mais quand ils oubliaient, il se débrouillait pour le réclamer. Donc il fréquentait à la fois les salons parisiens, mais aussi les œuvres laïques d'Arcueil, où il s'est occupé de l'éducation musicale des enfants. Et puis, il est rentré dès le lendemain de l'assassinat de Jaurès, il est rentré à la SFIO. Et puis ensuite, il rentrera au Parti communiste.
Via le fait qu'il s'occupe de l'amical, du patronage laïque
d'Arcueil. Oui, du patronage laïque d'Arcueil. Mais
ce qui est déjà un oxymore, patronage laïque, c'est le patronage, c'est sous un saint patron. Donc un patronage laïque, c'est déjà un oxymore. Il va se fourrer là, et on lui demande c'est pour qu'il reste, pour qu'il puisse rester membre de ce patronage laïque, on lui dit il faut être adhéré au Parti communiste. Il dit d'accord. Après quoi, il dit qu'ils ont des goûts de bourgeois en musique.
Oui, enfin, il récusait le fait que qu'il puisse y avoir un art officiel. C'était pas pensable. Et puis en cellule, ce qui l'intéressait, c'était la façon dont on pouvait visiter le Louvre. Donc il parlait de ça en cellule. En tout cas, Ornella Volta qualifie la façon de Satie d'habiter ses différents costumes successifs de conformisme ironique. Une sorte de mimétisme grimaçant qui habille tout en déshabillant l'autre par une mise à nu du semblant. Pour terminer, dernier paragraphe, manière de commencement. Satie naît à Honfleur le 13 mai 1866, très jeune, dans un monde très vieux. Et alors, il dit la chose suivante de sa naissance. M'y a-t-on envoyé, sur terre, donc, pour m'amuser, pour me distraire un peu, pour oublier les mystères d'un au-delà dont je ne me souviens plus. N'y suis-je pas opportun ? Le père d'Éric, Alfred, issu d'une famille patriote et catholique, à la grande rigueur et morale bourgeoise, a épousé une Écossaise anglicane, Leslie, qui fera baptiser ses quatre enfants dans cette religion. Éric est l'aîné et, bien sûr, on peut supposer qu'un rejet a pesé sur lui. Je dirais un double rejet. D'abord, du côté de son père, il y avait un rejet du joug familial manifeste. Alfred était un brillant intellectuel qui parlait, je crois,
7 ou 8 langues.
À la carrière musicale contrariée. Et donc, ce rejet se manifeste tant par le choix de sa femme, une ennemie héréditaire, en quelque sorte, en plus avec la religion anglicane, mais aussi par le fait que dès que ce sera possible, à la fin de la guerre de 70, il va abandonner sa carrière de courtier maritime, qui était un peu l'héritage de son père, pour partir sur Paris et devenir, rejoindre son ami Albert Sorel, qui est au Sénat, et donc devenir traducteur, et ensuite, par la suite, il deviendra éditeur de musique d'opérette, de chansons, de musicals et de cafés-concerts. Il cherchait à publier des tubes, en quelque sorte, et il courait les théâtres et les salons. Il était vraiment fasciné par la vie mondaine parisienne. En tout cas, donc, il part à Paris lorsque Éric a 4 ans. Et donc, ça, c'est le rejet du côté du père, mais du côté des grands-parents, rejet de ce mariage et de cette religion, surtout. Et le grand drame, c'est que sa mère, Leslie, va mourir brutalement lorsqu'il a 6 ans, en 1873. Et cette mort, d'ailleurs, sera redoublée par la perte de sa dernière petite sœur à peine 2 ans. Il va retourner alors à Honfleur avec son frère, où les grands-parents le font immédiatement rebaptiser dans la religion catholique. Et c'est probablement son grand-père paternel donc, qui va lui faire donner des cours de musique par M. Vineau, organiste et maître de chapelle à l'église Saint-Léonard à Honfleur. Diplômé de l'école Niedermeyer, qui est cette école qui avait remis au goût du jour la musique religieuse, sous tous ses aspects, et dont on va retrouver l'influence tout au fil des œuvres de Satie, et en particulier dans ses pièces mystiques, mais aussi dans Socrate. Éric a 12 ans, deuxième drame, Éric a 12 ans lorsque sa grand-mère est retrouvée noyée sur la plage d'Honfleur. Il part alors rejoindre son père qui s'est remarié avec Eugénie Barnetche, une pianiste académique, compositeur amateur au caractère autoritaire et qui appréciait énormément les salons parisiens. Et donc c'est elle qui va faire œuvrer pour faire entrer Eric à 13 ans au conservatoire, conservatoire qu'il décrit comme une sorte de local pénitencier, sans aucun agrément extérieur ni intérieur du reste. On ne peut s'empêcher de penser le conformisme ironique de Satie, la façon dont il a miné de l'intérieur l'establishment musical en s'attaquant à la nature même de la musique comme une version du père ironique et grimaçante. Et je terminerai, avant de céder la parole à Catherine, en citant le préambule des Embryons desséchés où il dit la chose suivante: cette œuvre est absolument incompréhensible, même pour moi. D'une profondeur singulière, elle m'étonne toujours. Je l'ai écrite malgré moi, poussée par le destin. Peut-être ai-je voulu faire de l'humour. Cela ne me surprendrait pas et serait assez dans ma manière. Toutefois, ajoute-t-il, je n'aurai aucune indulgence pour qui en ferait fi. Qu'il le sache. Donc, Catherine.
Je fais circuler peut-être les deux, c'est les deux mêmes, les partitions d'Eric Satie, si vous voulez. Alors, j'ai poursuivi un peu comme Marie-Hélène, j'ai scandé mon texte avec soit des titres de pièces, soit des remarques dont Eric Satie parsème ses partitions. Le titre général, c'est « Croquis et agacerie d'un gros bonhomme en bois ». Voici un extrait de carnet qui a été intitulé par les découvreurs « Les raisonnements d'un détu », parce que ça apparaît quelque part dans le carnet comme un titre. Voici le paragraphe. « Recoin de ma vie. Souvent, je regrette d'être venu moi-même en ce bas monde. Non, j'aime le monde, le grand monde. Et même le demi-monde étant personnellement une sorte de demi-mondain. Croyant bien faire, presque à mon arrivée ici-bas, je me suis mise à jouer quelques airs de musique que j'inventais moi-même. Tous mes ennuis viennent de là. » Pour emmener la Volta, qui a publié les écrits et qui consacre beaucoup de temps à les collationner, Eric Satie pose le problème de la communication musicale en truffant ses partitions de textes qui sont à ne pas lire. Il est celui qui produit une musique pour laquelle il ne faut pas s'asseoir ni même l'écouter. Je ne sais pas si c'est de la communication, mais il me semble que l'écart entre la musique qui ne doit pas être écoutée et la nécessité d'écrire des textes pas à lire éclaire pour moi l'expression de Lacan. Jacques Alain Miller le souligne sur la quatrième couverture de couverture des autres écrits, ajoutant que le pas à lire, c'est la définition de l'écrit selon Lacan. Et c'est cela que je vais tenter d'explorer avec vous. En quoi l'écriture et la musique ont permis à Satie de produire une œuvre. Embarquement pour Citer. Ce ne pas écouter, est-ce que c'est entendre? Ou bien, n'est-ce pas une sensibilité, ou encore la rencontre avec un réel sonore, on parlait de lui tout à l'heure, puis le rejet de l'obligation d'écouter? Les premières pièces portent un titre qui est un terme d'architecture. La pièce Ogive est d'un style qui, en effet, évoque un hiérarchisme et une compunction d'intérieur d'église. Mais la mélodie, même si elle se déroule dans le genre du plein chant, alors Monsieur Vineau était un adepte du plein chant, il a initié Eric Satie au plein chant et au chant grégorien et au mode plago et autres hippolyniens de grégorien. Donc la mélodie, même si elle se déroule dans le genre du plein chant, frappe par sa verticalité, les accords répétés, la quasi-absence de modulation, au point que beaucoup de critiques les trouvent mal écrits. De même pour les cinq mélodies qui sont contemporaines, avant 1889. Alors que la construction harmonique telle que Jean-Pierre Armand Gauquier, pianiste, l'a décrit, est plutôt une succession d'émotions se terminant par une résolution tonale, symbole d'acceptation et de résignation, comme dans les récitatifs de Bach. Il note déjà la façon dont Satie va rejeter plutôt le discours et s'attacher à la voix, au matériel sonore, au geste qui implique le corps. Et répéter le motif, comme dans un bâtiment où se répètent les motifs architecturaux. Polka des lettres. Cette période musicale, qui verra apparaître donc juste après les premières pièces, la période musicale suivante verra apparaître les gymnopédies et les gnossiennes, et cela correspond à la fin de l'influence du Sarpelladon. La date de la rupture est 1892. Dans cette séparation du mysticisme et de la chaleur de la communauté, fut-elle déjà elle-même dissidente, toutes les capacités créatrices d'Éric Satie vont être mises en mouvement. Bien sûr, l'aventure avec Suzanne Valadon, apparemment au printemps 1893, et dans les suites de la rupture avec l'église du Sarre. Bien sûr, les excommunications et les imprécations contre les critiques, alors, qui font partie de l'église, bien sûr, mais qui sont aussi en dehors, qui emplissent les cahiers et puis paraissent parfois. Mais il va solliciter aussi la calligraphie, cet art d'écrire mot, qui est déjà représenté dans sa panoplie créatrice. Et même cet art lui permet le placardage sur sa porte de l'interdiction d'entrer à la femme très aimée. C'est une des calligraphies qu'on retrouvera dans sa chambre. Ils ont retrouvé les pancartes dans la chambre d'Arcueil. Les pancartes où il dit, interdit d'entrer à Suzanne Valadon.
Et d'ailleurs, ceux qui recevaient les bulles, les gardaient. Enfin,
oui, Gauthier Villard en particulier, oui. Willy les a encadrés. Et tout le monde venait admirer les calligraphies d'Éric Satie, se répandant en imprécations contre M. Henri Gauthier. Et puis maintenant, tout ça, c'est dans le fond, on est là. On trouvera donc, après sa mort, des milliers de petits dessins, donc apparemment plus de 4 000, parfois de la taille d'un timbre-poste, pour de la réclame. On n'a pas choisi la même chose. Quoi. Moi, j'ai trouvé les produits inventés, les auberges, les arbres, des plans de château, mais il y a effectivement toute une série sur les arbres, dans une variété extraordinaire. L'esprit de blague y est à l'œuvre, mais aussi une déconstruction déjà ravageuse d'une modernité visée dans ses travers avec la verve d'un juvénal et qui anticipe sur les révolutions esthétiques du cubisme jusqu'au dadaïsme. Le précieux dégoûté. C'est peut-être cette présence d'un corps problématique qui fait que Satie, plus sensible à la pulsation qu'au tempo, va retirer les barres de mesure dans beaucoup de pièces. Il va dans le même temps mettre dans ses partitions des textes. Hein, vous avez les partitions, là vous pouvez voir que c'est une véritable calligraphie qu'il écrit sur les portées, là où il n'y a pas de notes. Ces textes ne sont que pour le lecteur de la partition, dit-il. Au début, en effet, il s'agit de remarques d'interprétation habituelles, puis de plus en plus descriptives jusqu'à l'absurde ou l'incompréhensible. Par exemple, la première gnossienne porte « du bout de la pensée », puis « pas à pas ». « Pas à pas », c'est plus explicite. Plus d'un artiste aura l'idée de faire dire ces textes. Mais « du bout de la pensée », c'est quand même... Il y a aussi « ouvrez la tête ». Il est le musicien qui se préoccupe de la forme de ses morceaux, comme il se préoccupe de ses costumes. Il y aura pour en témoigner les trois morceaux en forme de poire, dont les légendes disent qu'ils furent faits pour contrarier Debussy, qui lui avait dit « tes créations manquent de forme ». Mais il est aussi vraisemblable qu'ils ont été faits plutôt pour lui, car les détracteurs de Péléas et Mélisande disaient que cet opéra n'avait pas de forme et n'aurait pas d'avenir. Alors, il nous semble que c'est Vincent Dabie, mais je dois dire qu'hier, j'ai pas eu le temps.
C'est Vincent.
C'est bien Vincent Dabie. Les trois morceaux sont comme de juste 7, donc une manière de commencement, une redite qui n'a rien à voir avec la répétition. Mais il y en a un en plus. Et c'est pour moi un écho, une leçon de Lacan, entendue après avoir découvert cette partition. Lacan, le psychanalyste, parlait de l'un en plus. Oh oui, c'est un en plus d'Eric Satie, c'est une gnosienne, encore une, mais pour moi c'était des harmonies inouïes qui me décalaient du Beethoven que j'adonnais et qui m'a ouvert la porte vers les derniers quatuors de Beethoven, mais aussi vers la musique actuelle. Et Satie questionne ce un, cette unité qui permet le développement d'un thème, développement qui n'était pas évident du tout pour lui. Chose vue à droite et à gauche, chorale hypocrite. Il y a beaucoup de chorales. Hein. Il y a un chorale inapécitissant, puis moi j'ai mis un chorale hypocrite. Satie déménage de la Nouvelle Athènes, il était rue Victor Massé dans un endroit qu'il appelait le placard et qu'il partageait avec la tour Cantamine, jusqu'à Arcueil, à la charnière de cette période. Il s'intéresse au rythme nouveau et compose, paraît-il, le premier actin européen. Puis il retourne à l'école de M. Vincent Bangui, voire plus loin. De 1905 à 1915, c'est la période la plus productive. Alors je fais circuler sport et divertissement, dont certains critiques, très sérieux, disent qu'il y a plus d'idées dans sport et divertissement que dans Tannhäuser. Je leur laisse la responsabilité. Mais effectivement, c'est extrêmement inventif sur le plan de l'harmonie et de la composition. Et c'est John Cage qui le dira. Je peine à décrire à la fois la musique mais aussi la beauté de la calligraphie de ce système de notation si complexe qu'est les deux portées d'une partition de piano. En plus, Satie invente d'écrire cette fois non plus dessus ou au début comme ça se fait en italien sur les partitions classiques, mais dans sa langue personnelle sur les lignes de portée. Regardez la pêche. Il y a le premier poisson, vous avez la copie, bon, il y a le premier, alors ça commence par murmure du ruisseau. Après, il y a le premier poisson, et puis le deuxième. Et voilà, on les voit arriver, et là, avec la calligraphie qui suit le mouvement du poisson qui ondule. C'est tout, enfin, moi, voilà, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de.
Murmure de l'eau dans un lit de rivière, venu d'un poisson, d'un autre, de deux autres. Qu'y a-t-il ? C'est un pêcheur, un pauvre pêcheur. Merci, chacun retourne chez soi, même le pêcheur. Murmure de l'eau dans un lit de rivière.
Voilà, c'est ça. Avec le soufflet, on lui forté vers le piano. Voilà. Lisez la pieuvre. Tiens, lis-nous la pieuvre.
La pieuvre est dans sa caverne, elle s'amuse avec un crabe, elle le poursuit, elle l'avale de travers, à garde, elle se marche sur les pieds, elle boit un verre d'eau salée pour se remettre, cette boisson lui fait grand bien et lui change les idées.
Ah, la pieuvre, ne parle-t-il pas de lui-même ? La boisson qui lui change les idées, c'était quand même une habitude. Et quand c'était l'absinthe, ça n'a pas été terrible. Le conseil « faire court » que Satie donnait aussi bien à lui-même et l'a élevé, à mon avis, à la hauteur d'une éthique. Aperçu désagréable, chapitre tourné dans tous les sens. La rencontre avec Jean Cocteau, oui, va faire à nouveau césure. Je suis désolée de marquer aussi fort mon transfert négatif. Croyez pas m'y faire prendre. La rencontre avec Jean Cocteau va faire à nouveau césure dans la production du musicien d'Arcueil. Cette fois, ce musicien qui a des yeux, comme le dit Man Ray, participe avec des peintres à des spectacles mêlant le théâtre, la danse et la musique. Pour Parade, avec Picasso, puis ensuite, contre Cocteau, Relâche, avec Picabia, mais aussi avec le cinéaste de théâtre. Alors, on peut voir facilement oui. En tract.
Sur Internet,
c'est très facile à trouver. Et avec la musique de Satie, et on aperçoit Satie
en train de... qui tire au canon
avec Picabia sur Paris.
Après avoir fait une danse.
Oui.
D'arrière en avant. Tous les
en fait, c'est quelque chose de très... On a l'impression d'assister à quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, c'est comme un rituel qu'on ne comprend pas. Satie montre un flair certain pour ce qui va faire rire ou crier. C'est selon le public. L'histoire est connue, et même s'il faut écouter ces constructions juxtaposées, dont on ne sait pas bien s'il faut les répéter et combien de fois. En particulier, la partition du ballet fait avec Picasso, Parade, c'est des bribes qui nous sont parvenues. Moi, ce que j'ai écouté, on a du mal à saisir ce qui lit les parties entre elles. Le motif répétitif d'entracte, qu'on entend bien, lui a eu beaucoup de descendants. Hein. Beaucoup de personnes se sont servies en particulier du motif rythmique. Socrate, sauver des eaux. Alors, sauver des eaux, ça s'écrit, pour Satie, ça s'écrit O-S. Et la belle excentrique. Je voudrais juste terminer en évoquant Socrate. Là aussi, les lecteurs de Lacan sont à leur affaire. Satie a mis en musique le portrait de Socrate fait par Alcibiade dans Le Banquet. Et s'il vous plaît, dans la traduction de Victor Cousin, qui est un texte, à mon idée, fort éloigné du poème. Enfin, il y a quand même deux chansons qui sont aussi, qu'on trouve facilement et qui sont souvent chantées, c'est Chochotte et Daphénéo. Si les textes de Chochotte et de Daphénéo sont des poèmes, alors Victor Cousin, pourquoi pas. Il y a aussi le pique-nique au bord de l'Ilissus, et ce serait de faire, et puis surtout la mort de Socrate tirée du Phédon. Je voudrais juste souligner la composition qui comporte des éléments assemblés. Alors, c'est André qui a fait un Satie dans la collection Solfège au Seuil. Voilà. André trouve que ce sont des éléments assemblés un peu au hasard, comme des jetons. Alors, je suppose qu'elle veut dire comme le faisait John Cale, c'est-à-dire en jetant quelque chose au hasard. Alors, je ne crois pas que Satie faisait ça, mais bon. Donc, comme des fragments d'une mosaïque. Elle signale l'emploi de ces petits morceaux dans des moments importants par rapport au texte, pour souligner ce qui est dit, et dans des moments d'intensité dramatique, mais aussi dans des moments de transition, comme à contre-temps. Aussi bien dans des moments, pour souligner des moments intenses que pour que dans des vides. Elle évoque à ce sujet la musique d'ameublement qui est ainsi faite de pièces et de morceaux qui n'ont de commun, à vrai dire, que leur opposition, telle l'opposition signifiante qui ne distingue que ce qui n'est pas pareil, comme dans bal et bol, par exemple. C'est-à-dire vraiment deux mots. Carrelage phonique. Voici ce que Satie dit lui-même dans une lettre à Jean Cocteau le 1er mars 1920. Pour le vieux Jean, la musique d'ameublement. La musique d'ameublement est foncièrement industrielle. L'habitude, l'usage est de faire de la musique dans les occasions où la musique n'a rien à faire. Là, on joue des valses, des fantaisies d'opéra et autre chose semblable, écrites pour un autre objet. Nous voulons établir une musique faite pour satisfaire les besoins utiles, entre guillemets. L'art, avec un grand A, n'entre pas dans ces besoins. La musique d'ameublement, avec des majuscules, crée la vibration. Elle n'a pas d'autre but. Elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur, et le confort sous toutes ses formes. C'est une musique faite pour ne pas être écoutée, mais elle est proposée à une maison de couture pour ajouter au confort des clientes. Hélas, la guerre de 14 mettra ce projet à la cave, d'où il ne sortira qu'avec l'appui de l'ami Darius Milhaud en 1924, donc un an avant sa mort. Pour conclure, Valse du mystérieux baiser dans l'œil, qui est le numéro 3 de la belle excentrique, en manière de conclusion. Satie s'est fâchée avec Debussy parce que celui-ci l'a traité, mais vraiment comme me le disent mes ados, de précurseur une fois de trop. C'est ce qu'il écrit à Emma Barbac, la seconde femme de Debussy. Oui, précurseur, le mot visait Satie, le détruisait aussi sans doute. Mais le malentendu va rester, même encore maintenant, et je crois que je n'ai pas réussi à l'entamer ce que je visais. Thank you.